Cette semaine à San Francisco, c'est le GDC, le Game Developers Conference, et il y a l'éditeur de jeux Ubisoft qui est là pour notamment présenter l'évolution du jeu vidéo avec ses Neo-NPC, ces personnages virtuels qu'on croise dans les jeux vidéo et qui sont contrôlés par la machine et non pas un autre joueur. Depuis longtemps, ce type de personnage agrémente l'expérience du jeu en lui permettant une certaine interaction avec notre personnage à nous. Mais là, Ubisoft vient de changer la donne en y injectant à ces NPC de l'intelligence artificielle générative. Pour nous parler de cette nouvelle approche, on va les rejoindre à San Francisco, le directeur scientifique de l'Ubisoft France. Bonjour David Louapre.
Bonjour.
David, vous êtes à San Francisco cette semaine pour présenter, je dirais, l'évolution de l'intelligence artificielle ou de l'intelligence machine chez Ubisoft, parce que ça fait longtemps que vous en utilisez. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Neo-NPC?
Il y a plusieurs évolutions possibles. Nous, on présente une évolution possible de l'IA des NPC. Et en fait, la principale évolution, c'est le langage. C'est le fait qu'on va pouvoir interagir de façon libre avec les NPC, c'est-à-dire leur parler dans un micro, leur dire ce qu'on veut, et que les NPC puissent répondre. Et alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes là-dedans, parce que juste ça ne suffit pas. Il faut que les NPC soient capables de répondre, qu'ils soient en contexte, c'est-à-dire qu'ils soient liés à leur personnalité, à leur histoire, à ce qu'ils connaissent du monde, au rôle qu'ils jouent, etc. Et puis, on a travaillé sur aussi un certain nombre de systèmes pour faire en sorte que ça permette de créer des éléments de gameplay, que ce ne soit pas juste quelque chose qui se rajoute en plus, mais qui soit juste une couche de roleplay, par exemple, mais que ça ait vraiment des impacts possibles sur le jeu dans le but d'inspirer les game designers et les développeurs.
Oui, parce que là, on parle vraiment de la création de personnages.
Oui, c'est ça. C'est de la création de personnages au sens où il n'est plus question seulement, par exemple, d'imaginer des IA simples qui vont simplement se balader ou attaquer les joueurs d'un côté, ou alors des NPC qui ont des lignes de dialogue qui ont été complètement écrites par avance. Mais là, il s'agit vraiment de bâtir un personnage qui ensuite va se livrer en quelque sorte à une sorte de rôle d'improvisation, c'est-à-dire qu'il va essayer d'habiter son personnage en fonction des interactions que le joueur va avoir avec lui, et d'une façon qui ouvre des possibilités nouvelles d'interaction avec le jeu pour le joueur. C'est-à-dire, on essaie vraiment de créer des types de gameplay qui n'existaient pas, qui n'étaient pas possibles sans ce type de technologie.
Mais le personnage, le personnage ou les personnages ou les foules qui avaient une certaine intelligence, je ne dirais pas que ça a toujours existé, mais dans l'histoire moderne de Ubisoft, la plupart de vos titres ont toujours utilisé. C'est quoi la volonté d'aller plus loin là-dedans?
Alors, moi, je, en tant que scientifique, j'aime bien penser à cette question-là en termes de quelles sont ce qu'on appelle les fonctions cognitives du cerveau. C'est-à-dire, un cerveau humain, quel type de fonction ça permet de faire? Et donc, par exemple, une des fonctions les plus classiques, c'est le contrôle moteur. C'est-à-dire, le cerveau sert à contrôler nos muscles, nos mouvements. Ça, les NPC aujourd'hui, ça le fait très, très bien. Hein. On a des NPC qui marchent, qui courent, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a des fonctions cognitives qui sont un petit peu plus compliquées. Il y a la mémoire, il y a la prise de décision. Et puis, des choses qui sont vraiment spécifiques des humains, comme ce qu'on appelle la cognition sociale, le fait que les humains soient capables d'interagir entre eux, qu'ils aient des émotions, etc. Donc, nous, en fait, si on peut dire d'une certaine manière, les foules qu'on avait ou les NPC qu'on a traditionnellement dans un certain nombre de jeux, y compris dans les jeux Ubisoft, ils ont des fonctions cognitives qui sont assez simples, c'est-à-dire contrôle moteur, prise de décision, un tout petit peu de mémoire. Et puis, en général, ça suffit au type de gameplay qu'on avait à l'époque. Et là, nous, ce qu'on se dit, c'est comment est-ce qu'on rajoute des fonctions cognitives supérieures, c'est-à-dire des émotions, une capacité plus complexe de réfléchir sur le monde, de prendre des décisions, de se faire influencer aussi, parce que le joueur va essayer de convaincre un NPC de faire autrement. Le NPC va changer ses plans pour le futur. Le NPC va évoluer dans sa relation sociale avec par exemple, une relation de confiance avec le joueur. Donc voilà, on essaye en quelque sorte d'ajouter des fonctions cognitives pour enrichir les possibilités de gameplay.
Et puis, je reviens sur ce que vous disiez. Moi, ça me fascine, la mémoire. Un personnage virtuel qu'on voit, ça a toujours été un peu bête, ça réagissait en fonction de ce qu'on faisait, mais de savoir que vous voudriez rajouter la mémoire et donc qu'il apprenne et que la relation entre le joueur et le personnage virtuel progresse, c'est vraiment pas banal. Là, vous êtes en train de jouer avec presque l'émotivité du joueur. Il va se développer au fil du temps un sentiment d'appartenance, un apprivoisement.
C'est ce qu'on a constaté, nous, en travaillant sur ce prototype. C'est-à-dire qu'on avait, plusieurs personnages qui ont été créés par notre directrice narrative, donc, dont elle a bâti toute l'histoire personnelle, la personnalité, la façon de parler, les tics de langage, ce genre de choses. Et puis on se rendait compte qu'à la fin, on avait l'impression de les connaître, à un point qui fait que si à un moment donné, il y avait quelque chose qui marchait plus dans un des algorithmes ou quelque chose comme ça, on se disait, ah ben là, notre personnage, c'est plus lui, il sonne plus pareil. Donc
On
oui,
le
à force,
reconnaît, oui.
voilà, exactement, on le reconnaît comme des vraies personnes. Et donc oui, ça change. Et cette idée de mémoire, elle est importante parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les NPC ont peu ou pas de mémoire. C'est-à-dire éventuellement, ils se souviennent si on est passé par là, etc. Mais ils ont peu de conscience de qu'est-ce que nous, on a fait dans le monde, qu'est-ce qu'on a entrepris comme action, qu'est-ce qui se déroule devant nos yeux, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des espèces de fonctions cognitives qu'on souhaite rajouter.
Puis c'est fou parce que je pense à ce que vous êtes en train d'inventer, de développer. C'est une chose, par exemple, de rencontrer des personnages qu'on pourrait revoir à l'occasion dans le jeu ou d'autres qui nous accompagneraient ou on pourrait jouer en coop avec ces gens-là. Mais je pense à un animal qui nous suivrait. Il y a déjà des jeux qui existent comme ça où l'animal est là, il nous suit béatement, puis c'est
Ouais.
sympathique, puis de temps en temps, on lui lance un truc, puis il va chercher. Évidemment, je pense à des chiens. Mais imaginez un chien qui développe, ça va être fou, là. On pourrait développer une relation avec un animal virtuel dans un jeu et lui pourrait progresser aussi au fil du jeu. C'est aussi ça. C'est pas seulement les humains, c'est vraiment tout ce qui peut être vivant dans un jeu.
Absolument. Une chose qu'on s'est dit souvent quand on a commencé à travailler sur ce prototype, c'est que le truc nouveau qu'on veut créer, c'est que pour la première fois, le jeu nous écoute. C'est-à-dire que d'habitude, en fait, c'est le joueur qui doit écouter le jeu et jouer en fonction de ce que le jeu lui dit. Et là, pour la première fois, on a on entrevoit cette possibilité que le jeu nous écoute. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément seulement limité à des personnages humains, par exemple, mais même, par exemple, parce que cette beauté en tout cas, cette puissance des modèles de langage, c'est les deux. C'est à la fois le modèle de langage permet d'écouter le joueur et permet de lui répondre. Mais déjà, une seule de ces deux fonctions, c'est déjà quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire d'avoir un animal qui, même s'il ne parle pas, est capable de nous comprendre, de nous écouter, d'agir dans le monde en fonction de choses des instructions qu'on pourrait lui donner comme ça en langage naturel, c'est déjà quelque chose de très nouveau parce qu'on est habitué à des jeux qui nous écoutent pas ou peu.
Ouais. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de créer un immersif 2.0, si je reprends la vieille image, parce que c'est une chose d'avoir un environnement qui répond à ce qu'on fait, ça rend l'expérience fort intéressante. Mais là, de créer ce lien, cette interactivité, là, on vient d'augmenter dans la couche d'expérience immersive, là.
Oui, c'est une forme d'interactivité qui est nouvelle et donc qui amène plus d'immersion, comme, faut se méfier des comparaisons, mais on pourrait comparer ça, par exemple, au moteur physique dans les jeux vidéo, c'est-à-dire à partir du
Ouais.
moment où le monde arrive les moteurs physiques permettent au monde de réagir de façon systémique, à la fois ça augmente l'immersion, parce que la réaction du monde est plus naturelle, et puis en même temps, ça ouvre des possibilités d'interaction et de gameplay qui sont nouvelles, donc oui, les deux vont ensemble.
Bon, là, c'est beau d'avoir développé ça, de travailler là-dessus avec vos collègues en laboratoire, mais ça a été quoi la réaction des créatifs chez Ubisoft quand vous leur avez montré cette affaire-là?
Alors, en général, ils sont assez enthousiastes parce que voilà, c'est des développeurs. Ils essayent de développer des jeux nouveaux. Ils essayent de développer des nouveaux concepts de gameplay parce que tout le monde a envie, voilà, d'essayer de trouver des choses qui n'ont pas été faites encore avant. Et globalement, ça suscite beaucoup d'enthousiasme. Et c'est assez indépendant des types de jeux, en fait. C'est-à-dire que nous, évidemment, on a choisi un type de setting assez particulier, etc. Mais les gens se projettent très bien dans leur propre monde de ce que pourraient faire ces outils-là, oui.
Puis on sort de l'extérieur des murs d'Ubisoft. Quand vous en parlez, ben là, comme par exemple, vous êtes au Game Developers Conference pour annoncer ça, c'est quoi la réaction de l'industrie?
Bah, il y a tout un tas de réactions. Ce qui est important, c'est la réaction des gens qui ont vraiment joué. C'est-à-dire que nous, on a fait venir des journalistes, des influenceurs, et on leur a donné la possibilité de jouer avec notre démo pendant 30 minutes où on leur expliquait comment on l'avait conçu, quelles possibilités nouvelles ça ouvrait. Et en fait, les gens qui mettent les mains sur la démo sont en général très enthousiastes parce que il y a un truc assez grisant et il y a quelque chose qu'ils ont encore jamais vu et dont ils entrevoient à nouveau aussi les possibilités de ce que ça pourrait être dans une grande variété de jeux.
Mais quand on est un chercheur comme vous, comme votre équipe, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a créé ce nouveau type de relation avec une créature virtuelle?
Oh ben les relations, comment dire, ça reste un travail de recherche aujourd'hui et donc voilà, je crois qu'aucun de nous n'est tombé amoureux d'un NPC,
Pas
si
pour le
c'est ça
moment, en tout cas.
la
Ouais.
question. Non, mais surtout en fait, nous on essaye d'ouvrir les chakras au maximum et puis que tout le monde se saisisse de ça. Voilà, on est là pour faire de l'inspiration en fait.
Ah ben, je suis certain que vous allez en inspirer. Chez Ubisoft comme ailleurs, vous allez faire des jaloux. Je rappelle, David Louampre, vous êtes directeur scientifique chez Ubisoft et accessoirement, moi je veux le mentionner, créateur de la chaîne sur YouTube Science Étonnante. Toujours content de voir vos nouvelles capsules. David, bon séjour à San Francisco.
Merci.